Tout à l'heure, j'avais dit qu'on va souhaiter la fête aux mamans parce que j'avais peur d'oublier. Bon, est-ce qu'on le referait parce que tout le monde est là maintenant? Est-ce qu'on peut souhaiter une bonne fête à toutes les mamans? Chantal, tu peux me mettre... Waouh! Cachez votre joie, les enfants, il y a vos mamans dans la salle, souhaitez-leur bonne fête. À toutes celles qui ont les mamans, les enfants trop loin, bonne fête. À toutes celles qui ne recevront pas des bonnes fêtes aujourd'hui et qui sont comme séparées avec leurs enfants, bonne fête quand même de la part de la famille du Seigneur. Amen. Ici, il y a des enfants qui ont besoin d'être aimés par des mamans spirituelles. Alléluia. Alors à toutes les mamans spirituelles, bonne fête. On voudrait vraiment mettre à l'honneur ces mamans qui sont des exemples, ces mamans qui traînent des familles à l'église, ces mamans qui tiennent dans la prière tout le foyer. On veut bénir les mamans. Amen.
Amen.
Waouh, ok, vous êtes en joie là ce matin, ça va? Vous avez chaud, vous voulez qu'on aère, vous voulez vous dégourdir un peu, ça va? Ah, parce que j'ai pas envie de faire un monologue, hein, j'ai besoin d'avoir du répondant. Hein. Ça va, vous êtes là avec moi, ok. Donc bonne fête à toutes les mamans, et pour introduire ce message, j'aimerais lire ce verset pour exhorter toutes les mamans. C'est le verset d'après. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari, et les maris disent
Amen.
Amen. Et est-ce que les épouses disent
ah.
Quoi, c'est pas une bonne fête des mamans quand on commence par ça? Vous êtes en train de remettre en cause l'inspiration de la parole? Est-ce qu'il passe bien ce verset? Non, reste, merci. Est-ce qu'il passe ce verset? Non, reste sur le verset. Est-ce qu'il passe bien ce verset? Femme, soumettez-vous à votre mari. Je ne lis que celui-ci, que cette partie du verset, qui est tirée de 1 Pierre. Les femmes ne voulaient pas connaître la suite de ce verset. Parce que ce n'est pas marqué comme femme aimait l'Église. Ce n'est pas dans Pierre. On va lire dans 1 Pierre 3, et on va lire pour connaître le contexte. Avant de faire 1 Pierre 3, et ça c'est le verset premier, et lire la suite, et mesdames, vous n'êtes pas prêtes, on va lire avant, pourquoi? Parce que le verset, il n'est pas anodin, il commence par « vous de même ». Ça veut bien dire qu'il y a un étalon, sur lequel il faut prendre modèle, on est d'accord. S'il y a « vous de même », c'est-à-dire on a dit quelque chose juste avant. Et on ne peut pas prendre ce verset en dehors du contexte, être un mari autoritaire qui dit « Bon, t'as vu ce qui est marqué? Soumets-toi à moi. » Déjà, ça ne marche pas parce que c'est « soumettez-vous ». Ça veut dire que c'est un choix de la femme. Okay? Donc on ne peut pas se soumettre sa femme et qu'elle soit dans la soumission en lui rappelant « Soumets-toi à ton mari ». Non, ça ne marche pas. La parole de Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est quelque chose qu'on doit choisir de se soumettre. Okay? Mais pour comprendre au final de qui les questions et... vous de même, quel est l'exemple de qui allons-nous parler? On va lire à partir de 1 Pierre 2 au verset 22. Et il est dit dans cet exemple de soumission biblique, il est parlé de lui. Lui qui n'a commis de péché, qui n'a commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte. Maltraité, ne faisait pas de menaces. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice, au final tout ce qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Amen. Vous savez de qui on parle, de celui-là? Vous l'avez deviné, c'est Jésus. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retourné vers le berger et le protecteur de votre âme. Vous de même, femme, soumettez-vous à votre mari. Jésus, l'exemple de soumission par excellence. Jésus qui s'est soumis à la volonté de son Père. Jésus qui s'est soumis face à ses agresseurs. Jésus qui a vécu l'injustice sans jamais menacer en retour. Jésus qui a essayé de négocier avec Dieu dans Gethsémané et qui quand même, sa dernière prière aura été « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». N'est-ce pas l'exemple parfait de se soumettre? Vous n'avez pas l'air trop d'accord? Jésus dira, hein, « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Moi, je crois que si ce début de message n'y passe pas et qu'il y en a, quand on parle de soumission, ça grince, c'est parce que nous avons mal défini la soumission. En tout cas, nous avons une définition humaine de la soumission. Nous avons mal compris ce que Dieu demandait par se soumettre. Est-ce que vous êtes prêts à avoir une définition ? Alors, si je prends le dictionnaire, il y a deux types. Il y a, alors je vous épargne la langue française de Molière qui est tellement simple, avec des verbes, comment c'est ? Mince. Verbes transitifs et verbes pronominal. Ouais, je crois que c'est ça. Laisse tomber, vous avez un rhume à la fin. Soumettre, c'est placer, ranger une personne ou un groupe sous la domination en usant de la force ou de la contrainte. Ça, c'est généralement comme ça qu'on mémorise le mot soumission ou se soumettre. C'est par la force. On l'a exigé. On est venu la chercher. On est venu la clémander. Et pourtant, dans la langue française, se soumettre, cesser de résister ou de s'opposer, obéir à quelqu'un, s'engager à respecter, à suivre une règle, une obligation, se conformer à quelque chose. Alors c'est sûr que le jour de la fête de mère, parler de femme, soumettez-vous à votre mari, c'est peut-être un petit peu provoque. Peut-être que c'est fait exprès. Peut-être qu'au travers de cette image-là, on peut aussi passer en revue les nombreuses fois où la Bible parle de soumission. On entend parler de soumission face aux autorités politiques. Dieu dit « soumettez-vous à vos autorités », qu'elles soient législatives, politiques, qu'elles soient aussi spirituelles dans l'Église. Dieu nous invite à nous soumettre en tant qu'ouvriers à nos patrons. Et les ouvriers disent « on a du mal, hein ». Mais Dieu parle aussi de soumission les uns envers les autres. Il est dit « soumettez-vous les uns aux autres ». Est-ce que c'est facile de se soumettre ? On aimerait bien que les gens se soumettent à notre avis, se soumettent à nos ordres, viennent et nous respectent et nous élèvent. Ça, oui. Par contre, fléchir le genou sciemment devant quelqu'un pour lui dire « je me mets à ton service », c'est pas vraiment naturel. Le verbe « se soumettre », dans la Bible, c'est upoutasso. Ça va ? Upoutasso. J'arrive pas le grec, hein, c'est trop dur. Mais voici ce que dit le dictionnaire biblique. C'est un terme militaire grec du sens de placer des divisions de troupes d'une manière militaire sous le commandement d'un chef. Dans un sens non militaire, il y a une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Et j'espère que vous commencez à voir où est-ce qu'on va. Parce que la femme qui se soumet à son mari, dans le langage militaire, excusez-moi, c'est une guerrière. Et j'aimerais vraiment mettre à l'honneur ces femmes guerrières que j'ai en face de moi. Ces mamans en devenir, ces femmes qui sont des guerrières, qui ont pris les bonnes armes. Attention, je ne parle pas des armes de la langue. Je ne parle pas du regard de travers et les gros yeux envers son mari. Je ne parle que des armes spirituelles, vous l'avez bien comprise. Amen, mesdames. Les maris, ne fanfaronnez pas trop. Vous n'allez pas trop aimer la conclusion. Mais on n'en est pas là encore. Ces femmes guerrières, vous l'avez lu comme moi dans cette définition, c'est se placer sous le commandement parce que nous avons une mission commune. La soumission, c'est se mettre sous la mission. Quelle est la mission de la femme et quelle est la mission de l'homme sur la terre ? Si ce n'est de veiller, à prendre soin des enfants, à veiller l'un sur l'autre, de l'homme sur la femme, de la femme sur l'homme, de prendre soin, d'ensemble, d'être un mini-temple, une mini-église qui glorifie le Seigneur, voici ce qui est demandé à l'homme et à la femme. Il y a une mission commune. Et même s'il y a un ordre hiérarchique qu'on aimerait envoyer valser parce qu'on n'aime pas les autorités, naturellement, Dieu nous demande de nous soumettre les uns aux autres. Et mesdames, en tant qu'épouses, de vous soumettre à la mission que Dieu a confiée à votre mari. Alors je sais là de suite, oui mais si mon mari est démissionnaire, on va parler de l'idéal de ce que Dieu a dit. Toutes vos situations sont uniques. et Dieu y répondra de manière unique. Mais sa parole est immuable. Sa parole traverse les âges et les situations. Sa parole a toute autorité. Est-ce que c'est vrai ? Amen. Est-ce que la parole de Dieu a autorité dans ta vie ? Je ne parle pas de la parole d'un pasteur, ni d'un homme qui voudrait dominer sur toi, ma sœur. Je parle de la parole de Dieu, d'un maître bienveillant, d'un père bénissant, d'un ami, un compagnon d'œuvre qui nous fait entrer dans sa mission. Parce que la mission, nous la connaissons. Je ne vais pas revenir sur mon dernier message où Dieu nous a demandé de porter du fruit. Je ne reviens pas sur cela. Mais Dieu nous invite à collaborer ensemble. Vous l'avez lu avec moi dans cette définition. Est-ce que, ma sœur, tu collabores avec ton mari ? Où c'est la guerre ? Est-ce que, ma sœur, tu as compris que la mission qui t'a été confiée l'a été aussi confiée à ton mari dans un rôle différent et que ton travail n'est pas abouti tant que tu ne collabores pas avec ton mari ? Je sais et j'ai conscience qu'en disant cela, je ne fais que relever peut-être les blessures du passé pour les divorcés, pour les gens qui ont été abandonnés, celles qui élèvent leurs enfants seuls depuis des années. Je comprends que toutes ces souffrances-là peut-être reviennent et sont là comme une bannière d'injustice qu'on aimerait lever vers le ciel. C'est vrai, et tout ça, Dieu est capable de l'entendre. Il voit la souffrance et il ne peut la laisser demeurer dans les cœurs. Dieu veut guérir vos cœurs, mesdames. Mais j'aimerais m'adresser aux guerrières. Parce que c'est ce que vous êtes devant le Seigneur. Vous êtes des guerrières du Seigneur dans son armée. Et à un moment, mes sœurs, il faut prendre les armes et les vraies. Celles qui te font plier le genou et qui te font intercéder pour ton mari, qui te font intercéder pour tes enfants, qui te font intercéder pour ton église, qui te font plier le genou, jeûner et prier, réclamer les arts de l'esprit pour combattre selon les règles spirituelles. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, mes amis. Mes sœurs, tu n'as pas à lutter contre la chair et le mauvais caractère de ton mari. Tu n'as pas à lutter face à ses lubies. Tu n'as pas à lutter face à ses oublis. Tu n'as pas à lutter face à tout ce qu'il pourrait te dire de vexant. Tu as à lutter en pliant le genou devant le maître, le général des armées, celui qui domine, celui qui voit tout ce qui va arriver et qui te donne déjà la victoire dans la prière. Mon frère, ma sœur, mes sœurs, on a à combattre et vous avez à combattre le bon combat de la foi. Si vous avez fait attention aux mots de cette définition, la guerrière, elle est sous le commandement d'eux. Mais elle marche en ordre de bataille. Il y a des règles dans le combat spirituel, ma sœur. Si tu veux combattre selon tes règles, selon tes aspirations, tu es une mercenaire. La guerrière, celle qui fait partie de l'armée du Seigneur, elle marche avec ses sœurs côte à côte et on marche sous le commandement de notre Dieu. Et donc, il y a des règles spirituelles à respecter. Une guerrière, elle n'utilise pas la langue, elle n'utilise pas les yeux, elle n'utilise pas les soupirs, elle n'utilise pas ses larmes, elle n'utilise pas tout cela. Elle utilise la prière, le jeûne, les dons spirituels, tout en n'oubliant pas que même si l'homme et la femme sont égaux face au salut, l'homme et la femme sont complémentaires dans l'ordre créationnel. Nous avons des rôles différents dans l'armée du Seigneur. Et c'est ensemble que nous composons la véritable armée du Seigneur. Est-ce que mes sœurs vous dites amen quand même ?
Amen.
Ah, quand même. Si ma sœur, tu es une véritable guerrière, tu dois comprendre qu'il y a des ennemis et qu'on n'a pas à se tromper de combat. Ton ennemi, il n'est pas à côté de toi, partageant le même lit. Ton ennemi, ce n'est pas cet enfant rebelle. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère, ta sœur qui est dans l'église. Ton ennemi, il est en face de toi et il veut te détruire. Ton ennemi, il veut ta chute spirituelle, ta chute physique, ta chute morale. Ton ennemi, c'est lui que tu dois affronter, ma sœur. Et en utilisant les armes de l'esprit, en revêtant toutes ces armes d'Éphésiens 6, tu dois combattre face à l'ennemi, tenir position. Nous sommes l'armée du Seigneur qui a tout remporté à la croix. Ma sœur, tu es une guerrière. Amen. Et tu dois combattre le bon combat à côté de ton mari, en allant dans la même direction, et pas en étant et en combattant l'un contre l'autre. Parce que sinon, si une armée, et Jésus le dira en parlant du diable, si l'armée s'affronte les uns contre les autres, elle est divisée et elle perdra le combat. Si c'est valable pour les puissances démoniaques qui, eux, savent s'accorder pour nous détruire. Combien nous devons réaliser, mes sœurs, mes frères, que nous devons nous assembler pour aller dans la même direction. Ma sœur, tu dois être une guerrière comme Déborah. Ah, ce n'est pas ce qu'on dit de son CV, mais c'est ce qu'elle a été. Désolé messieurs, je vais faire une parenthèse qui va piquer peut-être pour la masculinité, mais Déborah, elle a été guerrière à cause des guerriers qui n'étaient pas là. Déborah a pris un rôle qui n'aurait pas dû être le sien, mais elle l'a fait parce que la victoire avait été donnée par l'Éternel et qu'elle a dû juste combattre une victoire remportée. Combien d'hommes sont pétris par la peur alors que Dieu a dit que tout avait été accompli? Combien d'hommes pensent que leur femme est leur ennemi? Combien d'hommes sont restés face à de faux ennemis? Et combien d'hommes n'ont pas compris que l'ennemi a déjà perdu? Mes frères, levons-nous. Cet homme qui n'a pas voulu se lever, c'est Barak. Et lorsque je prêchais sur ce passage de Juges 4, un jour une femme dira dans l'auditoire, alors que je suis en train de prêcher, « Barak, sortez de vos baraques !» Elle va... Vous rigolez pas, c'est pas grave. Moi, ça m'avait bien fait rire ce jour-là. Pourquoi? Parce que Déborah a été envoyée, elle était juge et prophétesse en Israël. Elle n'était pas guerrière. Mais elle l'a rajoutée à son palmarès. Elle l'a rajoutée à son CV. Combien de femmes ont 15 000 casquettes à la maison? Elles sont en même temps maman, et parce que le mari n'est pas là, elles sont aussi papa, elles sont aussi gardiennes de l'éducation, elles sont le cadre, elles sont l'affection, elles sont tout ça en même temps. Mon frère, ma sœur, nous avons des places à prendre, nous avons des rôles à relever, nous avons des combats à mener, mais c'est côte à côte que nous pouvons le mener. S'il y a des absents, la honte est jetée. Et Barak vivra une honte sur sa vie en tant que général des armées. C'était à lui de vaincre le général en face. C'était à lui de mettre l'épée dans le buste de cet homme. C'est une femme qui le fera. Une femme amènera les troupes, une autre tuera le général des armées. Quand je lis ce texte, à cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle fit appeler Barak. Vous voyez, une femme spirituelle, humble. Elle pourrait dire, bon, je suis juge et en même temps prophétesse, et il ne me manquait plus qu'à être général des armées, je vais prendre ma place. Non, elle a l'humilité d'aller chercher les hommes, mes sœurs. Aller chercher ces hommes. C'est ça, se soumettre. C'est accepter que l'homme a un rôle, la femme en a un autre. Et mesdames, faites preuve d'humilité, continuez de combattre dans la prière pour aller chercher ces hommes pour qu'ils prennent leur place, pour qu'ils soient dans l'église, dans votre foyer, force de proposition, des combattants spirituels et qui relèvent les défis. Mes sœurs, allez chercher des baraques pour qu'ils sortent de leur baraque. Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kadesh Naphtali, et elle lui dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor en emmenant 10 000 hommes de tribus de Naphtali et Zabulon. » Elle a reçu une parole précise. Il y a tout le mode d'emploi. Ça veut dire que le combat, il est plié. Tout est gagné, tout est remporté. Une guerrière, elle a conscience que le combat, il est remporté. Ma sœur, est-ce que tu sais que dans tes combats spirituels, quand tu pries pour ton mari, ta famille, tu as déjà la victoire? C'est une femme de pouvoir, Déborah, et pourtant elle reste humble. C'est une femme de l'esprit, puisqu'elle reçoit des révélations. C'est une femme d'humilité, parce qu'elle va chercher les hommes. C'est une femme qui ne croule pas face aux menaces, au découragement, la peur, le doute, la lâcheté comme ces hommes à cette époque. Mes frères, êtes-vous à votre place? Est-ce que c'est vous qui portez le salut de votre maison? La femme qui se soumet à son mari, c'est une guerrière, oui, mais c'est aussi une évangéliste. On va lire la suite de ce verset premier. Vous disiez, vous connaissiez la suite. Non, vous ne la connaissiez pas, ce n'est pas ce qui est dit. Femme, soumettez-vous à votre mari, ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole, par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Ma sœur, ton mari inconverti, ça fait des décennies que tu pries pour qu'il soit sauvé, arrête de lui dire « Sois une lettre lue ». Tu es une évangéliste sans parler, ce qui est un comble. Ma sœur, tu es appelée à gagner tes enfants, tous ceux qui t'environnent, par ton comportement. Avant le verbe. Nous ne sommes pas là pour être des prédicateurs, des prédicatrices, à remplir les cerveaux. Nous sommes appelés à être des témoins. Et des témoins, ils vivent et ils sont vus pour être différents. Ils sont vus pour bouleverser ce monde. Ils sont vus pour dégager Jésus-Christ. Et regardez, ces hommes qui refusent de croire, il y aura même dans les couples, des maris qui s'opposent, qui empêchent. Moi, j'ai des sœurs qui sont venues me voir une fois. Elles disaient, vous ne nous verrez pas souvent parce que nos moitiés sont inconverties et on essaye... Elles sont dans une grande difficulté, dans une grande souffrance, parce qu'elles sont privées de la communion fraternelle. Mais même ceux qui refusent, vos maris qui sont rebelles à la parole, seront gagnés sans parole. C'est une promesse. Et ce n'est pas en lui disant « Je suis fille du Dieu très haut, je suis sauvée et toi perdu, repens-toi » qu'il se donnera au Seigneur. Un jour, la reine Élisabeth se crêpera le chignon avec le prince Philippe. Ils sont dans un chalet, là, je ne sais pas où ils sont. En tout cas, il y a des journalistes qui veulent les interviewer. Et puis, en fait, ils passent devant, là, ils se sont pris la tête. Et puis lui, il boude, il va s'enfermer dans une pièce. Et là, elle arrive tout en colère, là, la reine Elisabeth II. Et elle tape et dit « C'est la reine d'Angleterre !» Elle tape la porte en revendiquant son titre. La porte reste fermée. Elle tape encore plus fort. « Je suis ta reine !» Toujours rien. Elle tape tout doucement. « C'est ta femme. » La porte va s'ouvrir et ils vont pouvoir se réconcilier. Ma sœur, même si Jésus dit que tu es une princesse, que tu es reine du Dieu très haut, que toi t'es sauvée et pas lui, sois sa femme, celle qu'il aime, celle qui sera capable d'aller le chercher même quand il boudera, quand il voudra intérioriser ses frustrations, va le chercher par ton amour. Paul dira aux Corinthiens, vous êtes notre lettre connue et lue de tous les hommes. Mais vous savez ce qui qualifie une guerrière évangéliste ? Parce que j'ai réuni les deux, voilà, vous êtes des guerrières évangélistes. C'est sa beauté. Alors là, il a vu que j'étais bien préparé, le pasteur. C'est quand même la fête des mères, il fallait que j'impressionne mon mari et mes enfants. Vous voulez qu'on lise un Pierre, la suite 3, verset 3. Il est question de la beauté, c'est vrai. Que votre parure ne soit pas parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté, l'incorruptible, incorruptible, d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Le monde, ma sœur, t'a influencé à être belle aux yeux des autres. La société t'a montré que pour paraître, il fallait être belle de l'extérieur, être dans une opération séduction, être dans... si j'ai réussi, autant que je m'habille en Prada, Gucci, Versace. J'en ai cité trois, c'est bon. L'apparence extérieure. Si Paul parle de cheveux tressés d'ornements d'or, il ne parle pas ici de se négliger. Ce n'est pas ce qu'il prône. C'est juste qu'à l'époque, les femmes qui se tressaient les cheveux avec des ornements d'or, c'était les riches. Et il fallait le montrer. Je fais un parallèle rapide. Ta vie de piété, qu'elle ne soit pas de parure extérieure. Vas-tu dans le lieu secret ? Est-ce que, et tu l'as lu avec moi, il est affiché, hein, un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Comment on est dans un état d'esprit doux et paisible quand celui qui est en face de moi me fusille de regard, quand il me fait des réflexions, quand il m'humilie et me vexe ? Comment je réagis de manière douce et paisible ? Mesdames, avez-vous le secret ? On va voir Jésus. On va dans le lieu secret. Parce que Dieu va nous revêtir d'une beauté intérieure, ce qui est d'une grande valeur devant Dieu. Mes sœurs, ni bijoux, ni maquillage, ni coiffure, ni sac à main, ni joli habit ne pourront gagner le salut de votre mari. Mais la beauté intérieure, celle d'un cœur régénéré, celle d'un cœur qui va auprès du Père, qui se soumet à son général des armées et qui attend de lui ses instructions. Quelle est la prochaine bataille que je devrais mener? Comment je vais gagner cette prochaine bataille? Parce que je sais qu'au final, la guerre, c'est moi qui l'ai gagnée. Ma sœur, es-tu toujours cette guerrière évangéliste avec moi? Tu m'écoutes bien, c'est bon? On continue. Ce qui qualifie cette guerrière évangéliste, c'est aussi son espoir. Dans 1 Pierre 3,5, hein, je déroule hein, ce chapitre que vous pourrez relire à la maison. Hein. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah qui a obéi Abraham en l'appelant son Seigneur. Messieurs, ça vous plairait? J'ai essayé. Hein, là, ça. Je lui ai dit, chérie, appelle-moi Seigneur. Ma dernière aurait répondu, il n'y a qu'un seul Seigneur et c'est Jésus. Elle aurait bien raison. Celles qui sont revêtues d'une beauté intérieure sont pleines d'espoir. Et elles placent leur espérance non pas dans un avenir meilleur, peut-être qu'il changera, peut-être qu'il ne changera pas, mais elles espèrent en Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari. Pourquoi Paul parle de cette soumission de Sarah? Parce qu'elle a dit juste Seigneur? Non, parce que même dans son mauvais choix, elle a été avec lui. On connaît tous ce péché avec Agar, le fait de vouloir aider Dieu, et elle a été avec. Ça ne veut pas dire, mes sœurs, qu'il faut tout cautionner, attention. Et se soumettre, ce n'est pas dire oui, Seigneur, à tout votre mari qui lèverait la main, qui vous insulterait, qui serait infidèle. Je ne parle pas de ces choses ignobles qui sont condamnables et répugnantes. Je ne parle pas de ces choses-là. Je parle d'être avec, de collaborer. Ce n'est pas simple. Ma sœur, est-ce que tu espères toujours en Dieu? Est-ce que tu es pleine d'espoir? Sarah, pour Abraham, elle était pleine d'espoir, même quand il l'a traitée de sœur. Même quand il l'a abandonnée à des puissances étrangères parce qu'il ne voulait pas revendiquer son... Il ne voulait pas de problème. Même dans la lâcheté d'Abraham, même dans le mensonge, même quand il s'est trompé de voie, elle était avec. Elle ne laisse pas l'infertilité rompre le couple et le mariage. Elle lutte pour son mariage. Elle s'associe avec son mari, se repent avec, même si elle a eu une mauvaise idée, elle aussi. Et que de pair, ils ont essayé d'aider Dieu. Ma sœur, est-ce que tu espères en Dieu? Alors persévère. Persévère. Parce que ce qui n'a d'égal que la beauté et l'espoir, c'est le courage. La guerrière évangéliste, elle est pleine de courage. Elle relève les défis. 1 Pierre 3,6 nous dit, « Vous êtes devenues ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Qu'est-ce qui te fait peur, ma sœur? Quelle inquiétude a gagné ton âme? Quelle crainte, quel trouble. J'ai une pensée pour toutes ces mamans solo que j'ai souvent en entretien et qui me partagent leurs défis de chaque jour, d'être à la fois maman, père, d'être éducatrice et d'être tous les rôles en même temps. Je voudrais vraiment les mettre à l'honneur. Mais je voudrais aussi honorer celles qui ont pardonné l'infidélité, celles qui sont allées chercher des maris, des missionnaires, pour les gagner à Christ. Vous êtes courageuses. Et l'Église a besoin de femmes courageuses. Si nous observons bien la tendance actuelle, de plus en plus de femmes retroussent leurs manches pour servir dans l'Église. De plus en plus. Si vous observez, je n'ai pas fait des stats pour ici, mais on va dire en moyenne, c'est entre 60 et 70% de femmes qui occupent les services dans l'Église. Alors oui, il y a la sagesse humaine qui va me dire « Oui, mais il y a plus de femmes que sur la terre que d'hommes. » J'ai regardé. Effectivement, vous avez raison. C'est 50,9% contre 49,1% sur la Terre de population. Voilà, voilà. On appelle ça un 50-50. Hein. Alors, je me pose la question, mes sœurs, est-ce que c'est votre faute ? Parce que vous prenez trop de place. Ou messieurs, parce que vous êtes des baraques. Vous ne pesez pas lourd, vous n'êtes pas trop baraques dans le Seigneur. Je mets un peu d'humour pour que ça passe mieux, mais comprenez bien le sujet. Il est solennel. Mon frère, ma sœur, l'équipe de l'armée du Seigneur sont composées d'hommes et de femmes. Pas de femmes, puis éventuellement des hommes qui se lèveraient tous les 10 du mois, de temps en temps. Messieurs, je vous ai dit que vous n'allez pas trop apprécier la conclusion. Messieurs, nous avons en face de nous des guerrières évangélistes qui sont belles devant le Seigneur, pleines d'espoir et courageuses. Où sont les hommes ? Messieurs, où êtes-vous ? Parce que le verset 7 nous dit ceci. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Mon frère, Pierre y parle à des hommes mariés qui n'ont pas compris que les femmes n'étaient pas plus fragiles. Et ce que dit Pierre, ce n'est pas qu'elles sont fragiles et vous êtes un sexe faible. Ce n'est pas ça qu'elle dit. Ce n'est pas ça que dit Pierre. Il dit que vous avez besoin de plus de soins. Vous êtes précieuses. Vous avez de la valeur. Et c'est l'homme qui doit donner cette valeur à sa femme. C'est la place de l'homme de valoriser l'épouse. Non pas qu'elle soit dans « Ah, j'ai besoin ». Non, c'est le rôle de l'homme de valoriser sa femme, d'être délicat, de montrer de l'estime. Et là, il y a une menace spirituelle. Si nous ne le faisons pas, messieurs, nous mettons une barrière à nos prières. Parce que l'épouse doit hériter avec nous de la grâce de la vie. Alors, pour le couple, le foyer, je vois, en relatant, et je termine avec cela, je vois deux problèmes, deux barrières à nos prières, deux barrières à l'épanouissement spirituel, deux barrières à l'épanouissement d'une famille. La femme qui serait dans l'insoumission et l'homme qui ne serait pas dans son rôle d'apporter de l'estime à son épouse, de veiller à, d'être au soin d'eux. Quand je vois ce comportement dans un foyer, ça va rarement. Beaucoup de problèmes annexes se rajoutent. Et pourtant, c'est simple. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Hommes, prenez soin de vos femmes. Et c'est vrai que dans Éphésiens et dans Colossiens, il est dit, femmes, soumettez-vous à vos maris. Et hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je prêcherai sur les hommes prochainement. Au final, quand on se dit, bon, faut aimer notre femme et les comme Christ, peut-être, mesdames, se soumettre, c'est plus simple. Non, ça passe toujours pas le mot soumission. Et si on demandait l'aide de Dieu pour que sa parole se révèle dans nos cœurs ? Parce que c'est pas parole d'homme qui compte, ce qui compte. Ces paroles de Dieu dans ma vie. Comment Dieu veut m'aider à être une guerrière évangéliste qui est belle, pleine d'espoir et pleine de courage. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière ensemble et demander à Dieu sa grâce. Un temps de prière qu'on va faire tantôt en louange, en demandant la grâce de Dieu pour qu'il se manifeste au milieu de nous. Mais aussi demander... de guérir les cœurs brisés. Si Chantal, tu peux me rafficher les sujets de prière, s'il te plaît. J'aimerais m'adresser à toutes ces mamans que j'ai en face de moi. Et ces mamans futures aussi. À toutes ces femmes que j'ai en face de moi. Voici ce que Dieu te demande ce matin. Que tu prennes les armes. Même quand les hommes ne se lèvent pas, prends les armes. Prends les armes, les bonnes, celles qui sont spirituelles. Apprends à te taire pour être cette lettre lue, et que par ton comportement, tu gagnes ton mari, même si c'est plein de souffrance. Dieu s'occupe de toi. Et je le crois ce matin par le Saint-Esprit. Dieu voudrait guérir. Guérir une sœur qui souffre. Ma sœur, voudrais-tu être guérie ? Tu vois ces guerrières évangélistes que j'ai en face de moi, Seigneur. Équipe-les, guéris-les. Envoie ton esprit, Seigneur. Qu'elles soient belles à tes yeux. Paisibles et douces. Et même si on a l'impression que c'est paradoxal d'être guerrière et douce en même temps, je crois que ce paradoxe, il nous vient du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour renouveler l'espoir pour celles qui éventuellement seraient désespérées, Jésus. Redonne du courage, Seigneur. Jésus. Est-ce que des femmes voudraient recevoir cette bénédiction? Mesdames, levez-vous. Saint-Esprit est là. Qu'importe ce que tu demandes au Seigneur, il veut te le donner cette matinée. Voilà ce qu'on peut souhaiter à toutes ces mamans. Non pas simplement une bonne fête, mais un vêtement de puissance et d'autorité. Oh Jésus. Commence à prier, ma sœur. Peut-être dépose les armes, celles qui sont charnelles. Et reçois l'équipement spirituel. Jésus.